Merci d'écouter Radio France Internationale. Il est 18h ici à Paris, 17h en temps universel.
RFI Soir, Romain Ozoui.
Jeudi 6 mars, bonsoir à tous, c'est la session soirée de l'info sur RFI. Il y a encore un beau et un riche programme ce soir, c'est parti. Voici les temps forts des 3 heures à venir. Dans 10 minutes, le décryptage et vous soulevez cette question, Véronique Rigolet. Est-ce que Vladimir Poutine a déjà gagné la guerre ?
Alors que l'Europe se met en ordre de bataille face à la menace russe, le maître du Kremlin, lui, continue d'engranger tranquillement les cadeaux de son nouvel ami américain. Alors que son homologue ukrainien Zelensky est mis sous pression, humilié à la Maison-Blanche, désormais privé de l'aide américaine. Jusqu'où ira l'alignement de Washington sur les objectifs de Moscou ? Vladimir Poutine aura-t-il finalement gain de cause sur l'Ukraine ? On fera le point avec deux spécialistes de la Russie, Ulrich Bounard et Florent Parmentier de l'Institut Jacques Delors.
Eh bien, tout à l'heure. Juste après, ce sera le débat du jour, alors que la journée internationale des droits des femmes va marquer le week-end à venir. Ce sera samedi. Nous évoquerons l'intelligence artificielle. Avec cette question, est-ce que l'IA est sexiste ? À partir du moment où l'intelligence artificielle, évidemment, reprend le contenu d'Internet, à quel point est-ce qu'elle reproduit également les préjugés, les stéréotypes ? Est-ce qu'on peut encore rectifier le tir ? Comment ? Réponse à suivre dans 30 minutes. Dans une heure, le grand journal du soir et le dossier qui nous emmènera au sommet européen consacré à l'Ukraine qui se déroule actuellement à Bruxelles, 18h30. PU, Afrique Soir, la première édition, 19h10, temps universel, votre session reportage pendant 50 minutes. Accent d'Europe sera dans l'est de l'Allemagne, dans une ancienne mine de charbon à ciel ouvert, transformée en lac. Enfin, le grand reportage, ce soir, au Brésil, la fièvre des jeux en ligne.
RFI.
Voilà pour le programme, mais à 17h02, temps universel, c'est le journal de Gilles Moreau. Bonsoir Gilles.
Bonsoir.
Et à la une ce soir, les discussions qui se poursuivent à Bruxelles.
Oui, Bruxelles, où un conseil de crise réunit les dirigeants des 27, appelés à surmonter leurs divergences face à l'agression russe en Ukraine et pour cela, à s'en donner les moyens, quitte à mettre en place une économie de guerre. Le président Volodymyr Zelensky est sur place. En arrivant ce matin, il a tenu à remercier l'UE au moment où les États-Unis gèlent leur aide militaire à son pays. À ses côtés, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, elle a promis aux Ukrainiens de leur donner les moyens de se défendre. Écoutez.
This is a watershed moment for Europe.
C'est un moment décisif pour l'Europe et l'Ukraine fait partie de notre famille européenne. C'est aussi un moment décisif pour l'Ukraine. L'Europe est confrontée à un danger clair et immédiat et doit être en mesure de se protéger, de se défendre, tout comme nous devons donner à l'Ukraine les moyens de se protéger et d'œuvrer en faveur d'une paix juste et durable. C'est la raison pour laquelle je présente aujourd'hui aux dirigeants le plan Réarmer l'Europe qui prévoit jusqu'à 800 milliards d'euros pour l'investissement dans la défense. Il donne aux États membres les moyens d'investir dans la défense. Il donne aux États membres la possibilité d'investir dans l'industrie de la défense ukrainienne ou d'acquérir des capacités militaires qui vont immédiatement à l'Ukraine.
Or to procure military capabilities that go right away to Ukraine.
La présidente de la Commission européenne, propos recueillis par Anastasia Becchio. Autre déclaration, rester spectateur serait une folie. Emmanuel Macron l'a dit hier soir à propos de l'agression russe et du risque de contagion en Europe de l'Est. Le président français a dénoncé l'agressivité de Moscou. Il a aussi dit son intention d'ouvrir le débat stratégique sur la protection de l'Europe par la dissuasion nucléaire de la France. Ses propos sur la menace que représente la Russie pour l'Europe ont fait réagir aujourd'hui à Moscou. Écoutez le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.
Il s'agit d'un discours extrêmement conflictuel. On peut conclure que la France pense plus à la guerre, à la continuation de la guerre. Et sauf votre respect, Monsieur le Président, on peut dire qu'il y avait beaucoup d'inexactitudes, diplomatiquement parlant. Il est dit dans ce discours que la Russie est devenue presque un ennemi, en tout cas un adversaire de la France. Mais rien n'est dit sur la façon dont l'infrastructure militaire de l'OTAN a constamment avancé à pas de géant vers les frontières de la Russie. Monsieur le Président n'a pas non plus mentionné les préoccupations et les craintes légitimes de la Russie à cet égard et la nécessité pour la Russie de prendre des mesures de rétorsion. Après cela, nous lisons les paroles du président français selon lesquelles il entend déployer un contingent en Ukraine après le cessez-le-feu. La Russie peut-elle accepter cela ? La réponse est absolument évidente.
Le porte-parole de la présidence russe, Friedrich Merz, est le probable futur chancelier allemand. Il souhaite de lourds investissements en matière militaire. Le sujet a été abordé à Bruxelles avec le président du Conseil européen, Antonio Costa. Lui aussi présent à ce conseil, on l'a dit, Volodymyr Zelensky, qui appelle à ne pas relâcher la pression sur Moscou au lendemain d'une frappe russe qui a fait 4 morts dans un hôtel du centre du pays, dans sa ville natale. On reste en Ukraine, où un rassemblement a été organisé en urgence ce matin à Kiev pour réclamer que les prisonniers de guerre soient libérés avant toute négociation. Reportage de Cerise Sudry-Leduche.
La Russie tue ou libérer nos prisonniers, les 200 personnes qui se sont donné rendez-vous devant l'ambassade des États-Unis à Kiev ce jeudi matin ont pris soin de rédiger leur pancarte en anglais. Beaucoup brandissent aussi la photo de leur frère, ami ou fils, disparu depuis des mois. Maria, 35 ans, ne peut retenir son émotion. La jeune femme a fait le déplacement depuis Lviv à 800 km de là pour être présente avec sa mère.
Mon frère est soldat. Il a disparu en décembre 2023. Il était à Marinka. Maintenant, ce territoire est occupé et nous ne savons rien de lui. S'ils veulent un accord, qu'ils organisent au moins un échange de prisonniers.
Natalia Epifanova, à la tête de l'association Libérer nos soldats, qui a organisé la manifestation, tente de rester calme malgré sa colère.
Donald Trump veut la paix, nous aussi. Mais sans les retours des prisonniers de guerre et des personnes disparues, cette paix n'en est pas une.
D'autant que si certains parlent de paix, la Russie continue, elle, à attaquer. Dans la nuit, 4 personnes sont mortes en Ukraine suite à des frappes russes. Cerise Sudry-Leduc, Kiev, RFI.
Des milliers de délégués venus de toute la Chine sont réunis cette semaine à Pékin, où se tient en grande pompe la session annuelle du Parlement. En marge des travaux, les autorités ont réagi au décret de Donald Trump imposant de nouveaux droits de douane sur les importations chinoises. Ce nouvel acte de guerre commerciale perturbe l'économie mondiale, mais nous nous battrons jusqu'au bout, a réagi le ministre chinois du Commerce. Si vous gardez les otages, vous êtes tous morts. C'est la menace, dernière menace en date, brandie sur son réseau social par Donald Trump en direction du Hamas. Voilà pour la déclaration publique, mais en coulisses, on apprend que Washington a ouvert un canal de communication direct pour négocier avec le Hamas, une première depuis près de 30 ans qui hérite en Israël. Agacé par ces négociations, les autorités se sentent mises à l'écart, rapporte la presse israélienne du jour. On s'arrête maintenant sur l'actualité spatiale du jour. Elle est riche. Côté européen d'abord, on vient d'assister en Guyane française au premier lancement commercial de la fusée Ariane 6. L'enjeu est de taille pour l'avenir de l'Europe spatiale. Mais la course aux étoiles n'est plus seulement l'affaire des nations. Nathanaël Vitran, une heure après, en effet, c'est une sonde privée qui doit se poser sur la Lune.
Oui, son nom c'est Athena, développé par l'entreprise américaine Intuitive Machines, doit en principe aligner en douceur autour de 17h30 temps universel. La sonde robot a décollé de Floride fin février à bord d'une fusée SpaceX, la société spatiale d'Elon Musk. Et si cette opération réussit, elle deviendrait le deuxième engin spatial privé à visiter la Lune en moins d'une semaine. Dimanche, c'est Blue Ghost, fantôme bleu de la société texane Firefly Aerospace, qui s'est posé sans encombre sur notre satellite.
Et il n'y a pas que l'amour de la science qui pousse ces entreprises privées à s'intéresser à la Lune.
Non, Gilles, il y a à la clé de juteux contrats avec les grandes agences spatiales étatiques. SpaceX vend à prix d'or ses services aux Américains comme aux Européens. Blue Ghost doit explorer la mer des crises dans l'hémisphère nord de la Lune pour le compte de la NASA. Ces entreprises espèrent se positionner pour une future exploitation des ressources minières, énergétiques et même de l'eau du pôle sud lunaire. C'est de cette région convoitée que pourraient partir les futures expéditions vers Mars et au-delà. Une nouvelle étape de la conquête spatiale qui se fera peut-être sous pavillon privé.
Merci Nathanaël Vitran pour toutes ces explications. C'était donc Nathanaël Vitran du service économie de la rédaction. Le ministre des Outre-mer Manuel Valls a entamé un séjour à La Réunion, île française de l'océan Indien frappée par le cyclone Garance la semaine dernière. Le bilan est toujours provisoire, au moins 5 morts. Quant au coût de la catastrophe, la Caisse centrale de réassurance l'évalue entre 160 et 200 millions d'euros. Enfin, c'est l'un des effets du réchauffement climatique et la fonte de la banquise. Ce début d'année 2025 confirme la tendance. Les températures restent très élevées un peu partout sur la planète, en particulier dans la région des pôles. C'est la fin du journal, mais la formation continue avec des cryptages. Très bonne soirée.